C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Donc, on en parlait hier. C'est l'histoire de Déborah Debraqueler. Elle est enseignante niveau 3e année à Saint-Hyacinthe, donc à l'école Saint-Thomas-d'Aquin, depuis 9 ans. Et elle travaille depuis 11 ans pour le Centre de services scolaires Saint-Hyacinthe. Elle a demandé un congé sans solde pour participer à l'émission Survivor Québec. Ça lui a été refusé. Elle a décidé d'y aller quand même. Et je le souligne, après avoir trouver une remplaçante qui est une prof qualifiée, qui est une prof à la retraite. C'est elle qui l'a trouvée. Et donc, elle n'a pas laissé ses élèves en plan. Hier, quand j'en ai parlé, il y a plein de gens qui m'ont... Écoutez, il y a plein de gens qui m'ont écrit, d'abord, et c'était 50-50, je vous dirais. Il y a des gens qui disaient le Centre de services scolaires Saint-Hyacinthe a fait preuve d'une inflexibilité qui lui revient en face. Et il y a des gens qui disent, non, le Centre de services scolaires Saint-Hyacinthe a bien fait de la congédier parce qu'elle a été congédiée, Déborah Debraqueler, pour s'être absentée. Donc, le motif du congédiement, c'est insubordination. Moi, je vous ai dit mon point de vue là-dessus. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'inflexibilité de la part du Centre de services scolaires. Et c'est une inflexibilité, je vous dirais, qui est symptomatique du milieu scolaire. C'est mon point de vue. Vous le savez, je parle souvent d'école, je parle souvent des profs. J'écris là-dessus, je fais des entrevues à ce micro. Je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises relations entre les profs et les centres de services scolaires. Et ça, c'est pour moi, c'est un exemple. Elle n'a pas laissé ses élèves en plan, elle les a pas abandonnés. Elle a trouvé une remplaçante elle-même qui ne sort pas du bassin des suppléants, suppléantes habituels. Je pense, à mon avis, qu'on aurait pu l'accommoder. Et que ce soit Survivor Québec ou autre, c'est pas ça le point. Il y a des profs, des fois, qui veulent faire des projets personnels. Et savez-vous quoi? À force de se faire dire non, ils finissent par sacrer leur camp puis aller faire pousser des tomates comme la serveuse de tomates. On va parler tout de suite avec Déborah Debraqueler, justement, l'ex-enseignante de troisième année à qui on parlait hier. Déborah, bonjour!
Bonjour, j'aime quand tu dis ex-enseignant.
Ben, ex ou pas ex, parce que là, il y a un développement. Je pense que le Centre de services scolaires Saint-Hyacinthe vous a fait une offre.
Mon syndicat m'a dit que je devais les appeler, donc j'ai appelé les ressources humaines, puis ils m'ont demandé si j'étais intéressée à retravailler pour eux. Donc, ils m'ont conseillé de faire une lettre de motivation et qu'ensuite, ils allaient regarder mon dossier et me répondre s'ils étaient intéressés à me réengager.
OK, vous réengagez à l'école Saint-Thomas-d'Aquin?
Ben, à me réengager à la commission scolaire, au centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Puis sûrement pour me proposer de remplacer mon propre contrat, en fait.
OK. Réexpliquez-moi comme si j'étais en troisième année, puis vous m'expliquiez la table de multiplication, là, parce que je suis pas sûr de comprendre. Ils vous sacent dehors, mais ils vous offrent de vous réembaucher.
C'est ça. Ils m'ont mis dehors, mais là, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils sont en pénurie, puis qu'il manque deux personnes, parce que les deux personnes que j'ai mises dans ma classe, ben, à un moment donné, elles arrêtent. Le mandat, c'était jusqu'au 28 mars. Moi, je revenais le 2 avril dans ma classe. Donc là, ils ont réussi à les étirer pendant une semaine de plus. Mais là, je pense qu'ils vont se retrouver sans personne. Donc, c'est peut-être la solution qu'ils ont trouvée, c'est de me réengager pour pouvoir aller dans ma classe pour finir l'année. Mais je vais finir l'année, mais au mois de septembre, je ne sais pas si j'aurai quelque chose. Okay. J'aurai sûrement quelque chose. Non. Mais pas à Saint-Thomas-d'Aquin. Je recommence à zéro. Je dois recommencer deux contrats, me faire évaluer, puis revenir sur la liste de priorités.
Décortiquons un peu. Là. Votre sentiment, votre cœur penche de quel côté présentement?
C'est sûr que pour les élèves, je veux être là. Pour eux, juste à penser à leur réaction, de savoir que je vais revenir, je veux être là pour eux, puis je veux rester mes 3 mois avec eux et finir l'année avec eux. Mais mon sentiment un peu de me dire qu'ils m'ont sacré dehors puis qu'ils me récupèrent, c'est comme... Et j'hésite là aussi. C'est vraiment... Mais d'un côté, ils sont en manque de profs, puis passionnés par l'enseignement, c'est ça que j'aime. À choisir de recommencer dans un autre centre de service scolaire ou de recommencer dans le centre de service scolaire où j'étais, qui est chez moi, on va dire, à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est sûr que c'est des questionnements. Je suis en questionnement depuis plusieurs jours, j'en dors pas, mais j'ai pas envie qu'on me fasse dire « Garde, t'as un métier, on te propose quelque chose, prends-le, ma fille. » C'est sûr que je vais prendre ce qu'on me propose, mais je continue à dire que la sanction était trop sévère.
Il y a une autre concurrente de Survivor Québec qui est prof au secondaire, au privé, au Collège de Montréal, à Montréal. Est-ce que j'ai compris que le Collège de Montréal vous a fait une offre d'emploi en apprenant que vous aviez été sacré dehors, Déborah?
Oui, oui, en fait, j'ai appris qu'elle avait eu un congé pour, comme pour briller. C'est un super beau congé où on te permet d'être toi-même. Et j'ai appris qu'il manquait de profs et que la direction était ouverte à m'accueillir.
C'est un peu loin de chez vous.
Oui, c'est un peu loin de chez moi. Saint-Hyacinthe, Montréal, c'est sûr que c'est de la route à faire. Mais c'est ça.
OK, je vous l'ai dit, ça n'a pas fait l'unanimité, votre histoire. Il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui disent, ben, elle a pris un risque, elle a juste à vivre avec les conséquences. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Patrick, je vais te dire en toute franchise, ça a toujours été comme ça dans le monde de l'enseignement. Dans le monde de l'enseignement, c'est toujours 50-50. Il y a des gens qui vont toujours être d'accord avec les enseignants et qui vont comprendre. Puis il y en a qui ne seront pas d'accord et puis qui vont toujours râler en disant, ben, ils ont 2 mois de vacances. Pourquoi elle n'est pas partie pendant ces 2 mois-là? Puis c'est sûr, mais c'est. J'ai toujours l'impression que l'enseignement, on a les pieds et poings liés avec le centre de service scolaire. On n'a pas grand choix de ce qu'on peut faire. Je me rends compte que j'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, j'ai été dans la même situation. J'ai voulu aller faire 9 jours, je sais plus ce qu'elle m'a dit, faire un trip 9 jours. Puis elle a eu les mêmes conséquences que moi. Elle a failli être virée. Ils ont fait un grief. Puis ils sont partis, on va dire, à la guerre avec... les syndicats, et elle m'a avoué que finalement, le centre de service scolaire s'est rendu compte que la sanction était trop sévère, qu'ils auraient dû y aller avec un avertissement, ensuite avec quelque chose, une autre sanction avant de passer à carrément la congédier. Mais moi, j'ai pas eu cette chance-là, j'ai été directement congédiée.
C'est une histoire fascinante, on va continuer à la suivre. Merci beaucoup, Déborah, et bonne réflexion à savoir si vous retournez enseigner.
Ah oui.
À la prochaine. OK, on parlait du centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe. Un centre de service scolaire, c'est composé d'un conseil d'administration. Et le conseil d'administration a voté pour le congédiement de Mme de Braqueler, 7-5. C'était à la fin du mois de mars. Un des membres du conseil d'administration s'appelle Joël Bélanger. Il est parent et il a participé à ce vote-là. M. Bélanger, bonjour.
Bonjour.
Donc, je pense, avant qu'on parle du vote au conseil d'administration du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, vous êtes familier avec Mme de Braqueler.
Ben oui, ben dans le fond, pour être sur le conseil d'administration, je suis d'abord élu président de mon conseil d'établissement de l'école Saint-Thomas, puis Mme de Braqueler a été l'enseignante de mon garçon l'année dernière, qui est en première année, puis ben, il espère beaucoup l'avoir l'année prochaine pour la troisième. Mais au-delà de ça, Mme de Braqueler brille partout dans notre communauté pour sa présence. Elle laisse personne indifférent. C'est vraiment là, un deuil du village au grand complet là, qui se passe présentement.
Monsieur Bélanger, donc vous étiez au vote quand le conseil d'administration du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe a congédié Mme Braqueler. Comment ça s'est passé?
Ben, en fait, je peux pas en parler parce qu'il y a un huis clos. Fait que je peux pas aller dans le détail de ça. Mais tu sais, on l'a dit tantôt, là, c'est 50-50. Fait que, on le voit, c'était 7 pour le congédiement, 5 contre. Moi, ce que je peux seulement vous dire, parce que tu sais, il y a vraiment des informations qui sont publiques, là. Moi, je pense que ça n'aurait jamais dû venir en conseil d'administration. La demande qui a été faite par Mme de Braqueler n'a jamais été analysée. Moi, je m'implique au sein de ma communauté. Je suis président de mon CE pour aider les enseignants, pour les défendre. Et moi, quand j'entends, quand je lis qu'on fait une demande le 15 novembre à 12h30 pour un congé sans solde et à 1h15, on dit traité terminé, c'est impossible. Moi, ça rentre pas. Ça rentre pas, puis on dit parce qu'il y a une pénurie de personnel. Moi, je m'implique, puis je demande des données. Je demande qu'est-ce que vous faites pour attirer le monde, qu'est-ce que vous faites pour les retenir. On me donne des projets, mais on n'a aucune donnée. Les données qu'on a eues dernièrement, c'est le taux d'absentéisme. Et je me suis mis à questionner parce que c'est essentiellement en grande partie à la maison en maladie, à cause d'une surcharge reliée à la commission scolaire. Puis, ils mettent aucun programme en place pour la prévention des enseignants en lien avec la MRSST. Ça, pour moi, s'il avait mis des choses en place, puis il avait analysé la demande, bien, il l'aurait accepté, puis elle l'a démontré, elle a elle-même trouvé sa ressource.
C'est un peu absurde, par contre, que là, après l'avoir sacré dehors, le même centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe se retourne puis il offre une job de la réembaucher, évidemment, au bas de l'échelle.
Ben, en fait, l'idée, c'est un bris de contrat, donc on la congédie. C'est un peu ça le débat, mais ils savent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, elle est invitée à repostuler puis elle recommence en bas de l'échelle. Moi, je l'encourage à terminer l'année à Saint-Thomas-d'Aquin. Mais au-delà de ça, le message qui est en arrière de ça, c'est on va vous museler. Si vous essayez de ne pas respecter vos règles, on va vous congédier. Il n'y a aucune souplesse, il n'y a aucune analyse, c'est by the book. L'analyse aurait dû être faite. Il y a d'autres articles dans la convention collective. Là. Il y a congé pour affaires relatives à l'éducation, où si on fait des séminaires, des comités pédagogiques, des congrès, des colloques, des journées d'information. Elle est entrée à l'éducation, elle l'a dit là, dans son projet, elle veut faire des conférences avec ça. Personne ne l'a contacté. Il n'y a personne qui lui a parlé.
Vous êtes au conseil d'administration, M. Bélanger, vous n'êtes pas dans la direction. Non. La direction du centre de services scolaires Saint-Hyacinthe, là, est-ce qu'ils sont bons?
Je répondrai pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je m'étais impliqué pour changer les choses. Je vous avoue que là, j'étais très déçu. Le soir du vote, j'ai pensé démissionner de mon poste au CA. Puis je me disais, si je démissionne, ben je pourrais pas être là pour aider les enseignants que j'aime tant. C'est sûr que dans des situations comme ça, je peux pas dire que je les trouve très bons. Non.
Puis je prends pour acquis que vous avez voté contre le congédiement de Mme de Braquelaire.
J'avais quand même pris la peine de mettre mon nom au procès-verbal comme quoi que je m'étais que j'avais voté contre cette résolution-là, pardon.
Merci d'avoir été avec nous, M. Bélanger. Bonne
journée.
Merci
à vous. Bonne journée, au revoir.
Joël Bélanger est au conseil d'administration du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Brièvement, en terminant, on va parler avec la mère d'enfants là, qui sont dans la classe de Déborah de Braquelaire. Madame Emmanuelle Saint-Jean est au bout du fil. Madame Saint-Jean, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez un enfant dans la classe de Madame de Braquelaire, c'est ça?
Effectivement. Mon garçon de 8 ans est dans la classe et j'ai aussi mon plus grand qui a eu aussi la chance d'avoir... Madame de Braquelaire en troisième année également.
Tu es une bonne prof?
Énormément. Madame Déborah, en fait, je pense qu'elle donne vraiment littéralement des étoiles dans les yeux des enfants. Elle est passionnée par l'éducation. Elle est dynamique, créative, elle motive les enfants, est investie. Mes enfants ont toujours hâte d'aller à l'école et vraiment, je parle au nom de tous les parents des enfants parce que je pense qu'ils ne sont pas assez représentés dans cette situation-là. C'est les enfants qui sont au cœur de l'éducation. On les a oubliés. Eux n'ont pas nécessairement pu dire leurs mots. Pas plus tard qu'aujourd'hui, mon enfant, justement, me disait qu'il comprenait pas pourquoi il avait même pas pu dire bye à Mme Déborah. Puis, il avait tellement hâte de l'entendre aussi par rapport à son expérience parce que pour lui, c'était un bel accomplissement. Puis, mon aîné, même en revenant de l'école tout à l'heure, m'a dit « Ben, maman, je comprends pas les parents, les adultes, les enseignants, ce qu'ils nous demandent, c'est de croire en nos rêves, de les réaliser, d'avoir confiance. » Et finalement, ben elle l'a fait, puis elle a été punie. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme image aux enfants? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour eux? Donc, oui, mon enfant est très, très triste, et c'est partagé, je pense, par les enfants, les amis de sa classe, mais, et même les autres enfants de Saint-Thomas. C'est un deuil, je pense que M. Bélanger l'a très bien nommé. Même mon troisième garçon, qui a 5 ans, ben même lui a hâte d'avoir Mme Déborah comme enseignante. Donc, on veut la garder à Saint-Thomas également.
Le grand patron du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Bédard. Avez-vous un message pour lui?
En fait, déjà, j'avais envoyé aussi une lettre par rapport à ça. Ce que je dirais, je pense, c'est qu'il a manqué de flexibilité. Est-ce qu'on aurait pu, justement, discuter, avoir des échanges, une recherche de solutions? Le message que j'aurais, c'est qu'on peut trouver peut-être une autre sanction qui est beaucoup moins... sévère pour que les enfants, non seulement les enfants cette année retrouvent leur enseignante, continuent leur potentiel, tout ce qu'ils ont eu comme cheminement, mais pour ceux qui vont venir, parce que je reviens à votre première question, Madame Déborah, justement, c'est une professeure qui va chercher le potentiel d'un enfant. Elle va vraiment soulever les forces, puis ça fait vraiment une différence. En tout cas, moi, je l'ai vu dans le passage de mes deux enfants. Je vois quand même le processus scolaire depuis la cinquième année là, pour les trois enfants. Puis cette année-là a été quand même déterminante pour chacun d'eux.
Madame Saint-Jean, merci pour votre témoignage. Bonne soirée.
Merci beaucoup à vous.
C'était Emmanuelle Saint-Jean. En terminant, je pense que Madame de Braquelaire a joué avec le feu. Ça, je le dis, quand on prend un risque dans la vie, il faut vivre avec les conséquences. Cependant, personnellement, des jours de suspension, OK. Parfait, je comprends. Une note au dossier, OK, je comprends. Un congédiement d'une prof qui est acclamée, qui est très appréciée, on a fait nos vérifications, ça, je comprends pas. Et à la fin, là, est-ce que c'est bon pour les enfants de la sacrer dehors comme ça? Je pose la question à Jean-Pierre Bédard, qui est le grand patron de la commission, on va dire la commission scolaire, là, parce qu'il n'y a rien qui a changé depuis qu'on a changé l'appellation, Saint-Hyacinthe. C'est-tu une bonne décision pour les enfants de la classe de troisième année à Saint-Thomas-d'Aquin? C'est-tu une bonne décision? notre équipe va l'appeler, on va y poser la question. Il va sans doute se cacher derrière le porte-parole, mais s'il y a deux... S'il y a une paire de couilles, il répondra, M. Bédard. C'est-tu bon pour les enfants de sacrer une prof dehors? Deuxième question, c'est-tu hypocrite ou c'est pas hypocrite d'essayer de la réembaucher à cette heure que tu vois que, oups, on va être dans marde maintenant qu'on n'a pas de prof pour finir l'année en troisième année à Saint-Thomas-d'Aquin? Fait que notre équipe va l'appeler M. Bédard. Demain, Philippe Quentin va me remplacer, il va me donner la réponse.
Patrick Lagacé en accéléré.
Parlons de caisse populaire, parlons du mouvement des jardins. Je vous raconte une histoire qui se passe à Repentigny. Il faisait donc 19 ans qu'à Repentigny, la ville faisait affaire avec la caisse des jardins Pierre Legardeur pour certaines affaires financières. Et la ville a décidé, comme on dit, de tester le marché. Est-ce qu'on a un bon deal avec des jardins avec la caisse Pierre Legardeur? On va aller voir. On va aller voir si on a des meilleures offres. On a sollicité des jardins et la caisse Pierre Legardeur. On a dit, écoutez, on revise nos pratiques. Cette fois-ci, on ne va pas renouveler de façon automatique le deal avec la caisse. Et Desjardins a perdu le contrat. C'est une succursale de la Banque nationale qui l'a remporté parce que ça permettait, semble-t-il, à la ville d'épargner 800 000 $. Résultat, non seulement la caisse Pierre Legardeur, la caisse populaire Pierre Legardeur du mouvement Desjardins a menacé la ville de couper des subventions à des OBNL, à des organismes communautaires de Repentigny, mais il semble que les représailles ont déjà commencé. Nicolas Dufour, le maire de Repentigny, est au bout du fil. Monsieur Dufour, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
D'abord, peut-être nous expliquer c'était quoi la nature du lien d'affaires entre la ville de Repentigny et la caisse Desjardins Pierre Legardeur depuis 19 ans.
Ah, ben ça a été très bien résumé. Dans le fond, là, nous, on avait nos activités bancaires courantes, des emprunts temporaires, puis nos placements d'excédents budgétaires là, qui étaient chez Desjardins depuis 19 ans. Puis vous l'avez bien dit, là, quand je suis arrivé en poste en 2021, petit côté conservateur, bon gestionnaire, on est obligé les villes d'atteindre l'équilibre budgétaire, ben on a retourné toutes les pierres et là, ben on a cherché notamment au niveau de nos ententes financières, est-ce qu'on avait des bons deals, comme vous avez dit. Donc là, on est parti en recherche de propositions là, auprès des institutions financières là, pour voir les offres que les autres nous faisaient.
Vous avez averti la caisse Pierre Legardeur que vous alliez faire ça?
Ah oui, puis dans le fond, nous, notre entente avec eux, là, elle terminait là, le 28 février 2023. Donc, on a fait une petite prolongation avec eux, là, juste le temps de nous permettre là, d'aller dans cette recherche de propositions. Et eux-mêmes nous ont dit, ben écoutez, vu qu'on fait une extension là, de notre offre, là, le temps que vous fassiez votre recherche de proposition de prix, ben on va vous mettre une clause que vous avez le droit de vous retirer en 90 jours. Mmh. Donc, si jamais vous avez un meilleur prix, ben ça va juste prendre 90 jours, vous allez pouvoir nous retirer de chez nous. Donc, ils en étaient pleinement conscients que c'était une possibilité à la fin de la recherche de prix qu'ils ne soient peut-être pas nécessairement le gagnant.
OK. Au terme de l'exercice, vous avez choisi d'aller avec une autre institution financière, la Banque nationale. Et là, à la caisse populaire Pierre Legardeur, on n'était pas content. Le 26 janvier, son directeur général, M. Alain Reich, vous a envoyé une lettre, M. le maire Dufour. J'ai lu la lettre. Résumé pour les gens qui nous écoutent, en quoi ça consistait?
Ben écoutez, le gros de la lettre rappelle l'historique de la Caisse des Jardins de la ville de Repentigny et les nombreux engagements financiers de la ville auprès de nos organismes communautaires. Donc, tout le long, là, on nous démontre que Desjardins est un bon citoyen corporatif à Repentigny. Puis on n'en doute pas, mais ça n'a pas de lien direct, les subventions puis les commandites qu'ils donnent, avec le lien d'affaires avec la ville. Donc, tout le long de la lettre du 26 janvier, on nous dit là, que Desjardins a donné énormément à la communauté. À la fin, on finit, là, puis c'est très clair, là. Vous comprendrez que ce choix qu'on a fait avec une autre institution pourrait avoir un impact financier sur les demandes de dons de financement, même s'il s'agit de votre décision d'affaires que vous devrez justifier en temps opportun. Donc, parce qu'on change d'institution financière, on nous dit vous allez devoir justifier qu'on coupe à de vos organismes. En conséquence de cette résiliation, nous pourrions remettre en question certaines ententes présentes et futures, dont commandites reliées directement ou indirectement avec une personne, un organisme de la ville de Repentigny.
Est-ce que vous avez
tout le long, on nous explique l'argent qu'on donne à la communauté, puis à la fin, on finit en disant, ben, si vous ne faites plus affaire avec nous, on va peut-être plus faire affaire avec vos organismes.
Est-ce que vous avez considéré ça comme des menaces de représailles à des OBNL pour votre décision?
Oui. Et moi, j'ai envoyé une lettre le 2 février là, pour faire part là, à Desjardins de mon étonnement là, de leur justification puis de la mise en lien entre les dons puis les commandites que Desjardins fait, qui sont leur affaire à eux, et le lien le contractuel avec la ville. Donc, on leur a fait part de notre étonnement, mais on a surtout dit qu'on avait une inquiétude de la volonté de remettre en question là, certaines ententes actuelles et futures, que ce soit des dons ou des commandites à lien avec nos organismes de la communauté.
Ben écoutez, dans mon souvenir, les caisses des jardins, c'était souvent impliqué. Ça donnait au club de hockey, ça donne à la Ligue d'impro, etc. C'était impliqué. Là, si je comprends bien, monsieur le maire, Desjardins, la caisse locale, dit « Nous, pour vous punir, on va arrêter de donner à certains organismes. » C'est ça?
Exactement. Et puis ça a déjà commencé.
Ça a déjà commencé.
Oui, on a un organisme, l'Excellence Repentigny, même si son nom fait référence à notre ville, c'est un OSBL indépendant de la ville. Et Desjardins là, était commanditaire, et là, cette année, ils ont décidé de ne pas donner le 20 000 $ même s'ils avaient une entente là, jusqu'en 2025. Donc, ils ont un contrat en bonne et due forme, le signons. Je rappelle qu'on est dans un état de droit. Là. Jusqu'en 2025 avec nous, puis cette année, ils ont décidé de ne pas verser l'argent en guise de représailles. Puis là, ben, c'est difficile. Parce
je vous arrête juste une seconde, OK? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un lien de cause à effet?
Ah, ben c'est que c'est directement après qu'on ait pris la décision de changer d'institution financière que tout d'un coup, on a remis en question le financement d'Excellence Repentigny, même si on avait une entente signée là, de 3 ans, signée depuis l'année dernière. Donc, avant le changement d'institution financière, on a signé une entente de financement, l'OSBL en question, a signé une entente de commandite avec Desjardins. Et là, après notre missive là, de novembre, là, où on a dit à Desjardins qu'on changeait d'institution financière, ben, tout d'un coup, là, un mois après, Excellence Repentigny n'était plus en mesure d'avoir accès à son financement.
Dites aux gens qui nous écoutent ce que ça fait, Excellence Repentigny.
Ah, c'est un super de bel organisme qui vient soutenir nos jeunes sportifs et nos jeunes en culture qui ont un talent exceptionnel et qui peuvent aller dans des hauts niveaux. Là, on a notamment là, des athlètes qui se sont rendus aux Olympiques qui ont été financés par Excellence Repentigny. Donc, ça sert à ça, là, financer des jeunes qui sont excellents dans leur domaine culturel ou sportif.
Est-ce que la caisse Pierre Legardeur n'a pas aussi coupé les fonds à Ara Musique, un autre organisme?
Oui, exact. Ben, ils faisaient des ententes à toutes les années là avec Ara Musique, là, qui est un organisme depuis 40 ans qui fait la promotion de la musique classique à Repentigny. Ils ont toujours renouvelé là, d'année en année. Puis cette année, ben un de mes conseillers siège à l'Ara Musique et tout d'un coup cette année, là, ils ont décidé de pas participer à l'Ara Musique. Donc c'est un drôle de timing. Pendant à peu près 20 ans, ils ont financé l'organisme puis tout d'un coup, du jour au lendemain, plus de son, plus d'image. On fait un lien de causalité direct.
Écoutez, j'ai sollicité Desjardins pour avoir des commentaires. J'ai envoyé la lettre que M. Alain Reige de la Caisse Pierre Legardeur vous a envoyée. J'ai envoyé aussi au porte-parole de Desjardins la lettre qui contenait votre réponse. Dans un premier temps, M. le maire, ils m'ont dit, écoutez, contrairement à ce que peut laisser sous-entendre cette lettre, Desjardins réitère sa volonté de soutenir les projets porteurs et rassembleurs de la communauté. Il s'agit d'une communication malhabile. Ça a été la première réponse. Mais quand je leur ai dit à Desjardins, à Lévis, qu'il y a déjà 2 organismes qui avaient été coupés depuis la lettre de M. Alain Reich, ils m'ont répondu ceci. Ce ne sont pas les informations que nous avions reçues de la part de la Caisse qui est responsable de ce type de décision. Ce que vous nous partagez nous préoccupe. Qu'est-ce que vous pensez de ces réponses?
Ben, je suis heureux de voir que Desjardins est préoccupé parce que moi, j'ai rien contre l'institution financière. Moi, ça a été une décision d'affaires que j'ai faite pour sauver 800 000 pour mes citoyens qui travaillent dur pour payer leurs taxes. Donc, moi, si Desjardins est sensible à ça puis trouve que justement, c'est pas une bonne pratique, ben, je vais être le premier content. Moi, je pense pas que ça doit être le style de l'institution, là. Faut pas que ça se répète. Puis, une institution bancaire peut pas commencer à se permettre, là, de faire ce type de menace-là, à mon avis.
Notre entrevue va probablement faire l'objet d'une transcription qui va être envoyée au grand patron du mouvement Desjardins, Guy Cormier. Avez-vous un message pour lui?
De faire preuve de sensibilité puis de se rappeler de la mission de la Caisse, qui n'est pas la mission d'une institution financière bancaire traditionnelle. Donc, Desjardins est censé soutenir les organismes et le communautaire. Il ne devrait pas faire de lien direct avec la gestion des municipalités.
Quand vous voyez une réaction comme ça là, de la part de ce monsieur Alain Reige qui dirige la Caisse populaire, Pierre Legardeur, Repentigny, est-ce que vous vous dites qu'il y a une différence entre ça et une banque?
Non. Bonne question. Je ne saurais pas quoi répondre à ça. Je me dis normalement, quand les banques investissent, ils le font parce qu'ils sont conscients qu'il y a un retour en termes de visibilité. Nous, Banque Nationale subventionne depuis des années les internationaux de tennis à Repentigny, puis ils ont même jamais eu de lien contractuel avec nous. Donc, je me dis qu'à quelque part, quand on fait des dons, il y a une volonté aussi d'ordonner à sa société qui doit être indépendant d'une volonté pécuniaire.
Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir été avec nous, monsieur le maire.
Merci, bonne journée.
Nicolas Dufour, maire de Repentigny.
Patrick Lagacé en accéléré.
D'abord, mise à jour sur le nombre de foyers sans électricité. Ça a frôlé les 300 000 aujourd'hui. On le sait, là, il y a eu beaucoup d'effets sur le réseau à cause de la neige qui était très, très lourde et des arbres aussi qui sont tombés sur les fils d'électricité. Donc, 148 000 foyers présentement qui sont toujours sans électricité. C'était 178 000 il y a environ une heure au début de l'émission. Souligner aussi que la Ville de Montréal ne planifie pas d'opération de chargement de la neige pour faire face à la tempête. On mise sur le fait que les températures vont remonter et que tout ça va fondre. C'est ce que la Ville de Montréal a annoncé aujourd'hui. Et on a aussi annoncé une sorte de tolérance là pour ce qui est du stationnement sur rue. On sait que dès le 1er avril, les règlements d'interdiction de stationnement liés notamment, par exemple, au nettoyage des rues, ben ça revient. Mais là, avec les bancs de neige, la Ville qui a annoncé qu'on allait être tolérant. Donc, beaucoup d'arbres sont tombés. Vous avez sûrement remarqué ça si vous êtes sorti aujourd'hui. C'est-à-dire que la neige était tellement lourde, plus lourde qu'à l'habitude, qu'il y a des branches qui ont cassé, il y a des arbres qui se sont carrément renversés. On va parler de tout ça avec quelqu'un qui a donc été extrêmement occupé aujourd'hui. Il s'agit de Jean-François Cloutier. Il est émondeur. Salut Jean-François.
Hey, salut Patrick, comment ça va?
Moi ça va bien. Toi, tu as été occupé aujourd'hui, je pense.
Ben oui, exactement. Là, comme l'épisode qu'on a eu au mois de novembre, là, ça aussi j'ai été pas mal occupé. Là, les branches étaient cassées sur les fils, les véhicules, les clôtures, là... Les arbres sont mis à l'épreuve, Patrick.
Mais il me semble que qu'on a déjà discuté, toi et moi, puis tu me disais que l'hiver, c'était pas une période achalandée. Est-ce que c'est en train de changer?
Ben oui, avec probablement le réchauffement climatique, là, on a des températures un peu bizarres. La pluie qui vire au verglas, après ça, de la neige fondante, de la neige lourde, ce qui alourdit énormément les branches, puis qui rendent... les branches très, très lourdes. Fait que c'est pour ça que les branches y brisent de plus en plus. Puis là, on met le vent là, qui souffle de plus en plus fort. Et c'est, ça va pas bien pour les arbres.
Est-ce qu'il y a des arbres qui sont plus résistants que d'autres, Jean-François?
Oui, bien, c'est bois dur, là, les chênes. C'est très, très solide. Ce que je vois là, dans mes urgences, là, c'est beaucoup les épinettes, les pins qui brisent. On a l'érable argenté là, qui est excessivement cassant. Puis ce que j'ai remarqué aussi, Patrick, de plus en plus, là, on a eu un épisode au mois de novembre, mais j'ai eu deux ou trois urgences aujourd'hui que les branches étaient déjà endommagées. Ils ont tombé, mais ils étaient déjà endommagés de l'autre épisode auparavant. Fait que des fois, les branches, c'est pas à cause que les branches sont pas tombées par terre, qu'ils ont rien brisé, que la structure de l'arbre est pas endommagée, puis ça prend juste un autre épisode de verglas comme ça, puis ça les... Il s'ensuit, ça tombe. Là.
Ce que tu me dis, c'est que si on veut éviter de t'appeler en urgence, on devrait peut-être jeter un coup d'œil sur l'arbre puis faire couper de façon préventive des fois.
Ben c'est ça, exactement. Le seul petit conseil que je pourrais donner, dans le fond, aux gens, c'est juste, après de grands vents, des épisodes comme aujourd'hui ou au mois de novembre, juste peut-être regarder un petit peu la cime de l'arbre, voir s'il n'y aurait pas des problématiques, des branches qui n'ont pas plié, qui sont pas totalement brisées. Ou s'ils sont pas sûrs, mais de le faire évaluer par un professionnel. Puis comme ça, on peut sauver énormément de dommages là, par la suite.
Aujourd'hui, là, t'estimes que tu t'es rendu sur combien d'appels, Jean-François, pour des arbres, des branches tombées?
Là, présentement, dans le fond, j'en ai 3-4, mais j'en ai beaucoup en attente parce que à cause que la neige est tellement mouillée que là, tu sais, on était tout trempé, les bottes, et ainsi de suite, les gants. Fait qu'à un moment donné, là, j'aime mieux que la tempête se calme un peu, puis on va continuer là, les autres urgences probablement demain. Là.
À quoi tu donnes la priorité quand tu as un appel? Qu'est-ce qui fait que tu y vas en premier?
C'est sûr que pour si, admettons, il y a une branche qui est suspendue sur un fil d'entrée de maison pour qu'on puisse rebrancher, moi, c'est sûr que j'ai pas le droit là, en dedans du 10 mètres, là, des fils à moyenne tension. L'Hydro-Québec, j'ai pas le droit. Mais ce qui est de l'entrée de maison, si, admettons, le fil est comme débranché, il n'y a plus de courant, bien ça, je peux faire les interventions, les véhicules, puis ensuite, ben là, les clôtures, puis c'est tombé dans des headsets ou ainsi de suite. Là. C'est, j'y vais par priorité. Là.
OK, écoute, sans me livrer de secret d'entreprise, Jean-François Cloutier, ça coûte combien un émondeur pour une job comme aujourd'hui?
Ah, c'est dépendamment vraiment là, de c'est cas par cas, là, c'est sûr que le déplacement en urgence, c'est plus cher, c'est sûr, là, tu sais, on fait venir un plombier ou un électricien en urgence, c'est sûr que ça coûte plus cher, mais je peux pas vraiment te répondre combien, écoute, c'est vraiment cas par cas, Patrick, là, c'est cas par cas, là, c'est difficile à dire, là, comme une branche suspendue sur un fil, ça peut aller, tu sais, par le minimum, un 250 pour aller, tu sais, déchiqueter, nettoyer, ainsi la déprendre. C'est vraiment at large, Patrick. Je peux pas vraiment répondre. C'est vraiment cas par cas. Mais c'est sûr que c'est plus cher qu'un appel normal.
Ce que je retiens, Jean-François, de notre conversation, c'est que faut regarder nos arbres puis pas attendre que les branches cassent puis tombent puis soient dans le chemin avant de commencer à faire la job.
Là. C'est là que les lagages rentrent en ligne de compte, qu'on peut sauver énormément, dans le fond, là, prévenir des dommages là, en cas de tempête. Puis c'est pas la dernière qu'on va en voir. Là. Écoute, j'en vois de plus en plus. Là.
Parfait. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée. Fais attention à toi.
À toi, Patrick, aussi. Merci. Bye-bye.
Salut, Jean-François Cloutier, émondeur, un gars occupé. On salue tous ceux et celles là, qui sont en train de faire de l'élagage. Je sais que vous êtes très, très occupés. On a un collègue ici, Normand Gemme, je le salue, qui est recherchiste chez Nathalie Normando, parti un petit peu à la va-vite aujourd'hui. Je suis allé jaser un peu. Et quelqu'un lui a envoyé une photo de son arbre qui bloquait le chemin devant chez lui. Donc, vous êtes nombreux comme ça. Bonne chance.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.